Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Au studio, nous sommes en compagnie de Monsieur Emmanuel Mourier. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Mourier, vous êtes conseiller numérique au sein de la communauté de communes d'Iwa. Nous avons aussi Madame Valérie Joubert, maire de Poyol, vice-présidente de la CCD en charge de la petite enfance et de l'enfance. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Madame Anne Blanchier, agent de développement social local au sein de la MSA et particulièrement sur la Drôme. Et pour cela, vous êtes ici pour nous parler donc d'un appel à projet dont l'un vient de se terminer au niveau des dépôts et qui consiste donc à demander peut-être au monde associatif ou à des structures de proposer des quoi particulièrement, Madame Blanchier?
Oui, ben bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous présenter en fait le dispositif qui se nomme Grandir en milieu rural, que la MSA a mis en place depuis 2021. Il vient s'inscrire bien évidemment dans les politiques de la branche famille que porte la MSA au niveau national et au niveau du département, des départements Ardèche-Drôme-Loire. En gros, le dispositif permet de renforcer son positionnement à destination de l'enfance et de la jeunesse sur des territoires prioritaires, donc qui consistent à s'adresser à des familles rurales et des familles agricoles.
En quoi consiste grandir en milieu rural? Quel public est touché? Vous en avez cité donc la famille est plutôt agricole et du milieu rural. Mais par quel biais s'opère justement ce grandir en milieu rural, ce dispositif?
Alors ce dispositif est donc axé sur des territoires qu'on a nommés prioritaires, qui englobent pour le territoire drômois les communautés d'agglomération Arche-Aglo, la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençal, la communauté du Diwa, la communauté de Val-de-Drôme en Biovallée, la communauté du Crétois et du Pays de Saillant, cœur de Drôme, la communauté de Dieulfy-Bourdeau et pour finir la communauté du Royan-Vercors. Donc ça s'adresse principalement aux familles et notamment pour les enfants, donc de 0 à 25 ans. Je tiens quand même à préciser que c'est un dispositif qui est en direction des structures qui accueillent, qui sont acteurs de l'enfance et de la jeunesse, et voilà, qui développent des projets en faveur de ces familles identifiées. Ce dispositif permet de développer ou d'améliorer voilà, la qualité de service qui existe ou de le développer pour voilà, favoriser les familles rurales et agricoles.
Il y a plusieurs aspects hein, qui sont visés d'ailleurs. Il y a la petite enfance. Pour cela, on peut voir avec Madame Joubert, qui est donc justement détachée par la CCD pour cette action. Alors la petite enfance et l'enfance, vous avez déjà eu, Madame Joubert, affaire avec ce dispositif depuis 3 ans, je suppose.
Oui, on est soutenu par la MSA et dans le cadre d'un projet qu'on a mené avec les structures d'accueil de la petite enfance dans le Diwa. Nous avons des crèches hein, sur tout le Diwa, sur tout le territoire, qui sont portées par des associations. Et nous les avons accompagnées depuis 2018 pour la fourniture des repas dans les crèches. C'est une obligation de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, qui a mis pour objectif la prise en charge complète des enfants dans les structures. Et cette prise en charge donc s'accompagnait de la fourniture des repas et aussi de la fourniture des couches. Et donc, pour la fourniture des repas, on a accompagné les structures pour aller vers cela avec une mise en place qui s'est faite en septembre 2022. Et c'est vrai que la MSA nous a accompagnés financièrement pour permettre la fourniture des repas. Dans le DIWA, cette obligation de la CNAF, elle est donnée pour permettre une alimentation saine, équilibrée pour tous les enfants de 0-3 ans accueillis dans les structures d'accueil, pour pallier notamment au manque, à des fois une alimentation pas très équilibrée. On voit un peu l'exemple des enfants qui arrivent avec une barquette de pâtes et de jambon dans les crèches. Or, dans le DIWA, ce n'était pas tout à fait le cas, puisqu'on a déjà dans le DIWA des familles qui sont très soucieuses d'apporter une alimentation de qualité à leurs enfants. Donc, quand il y a eu cet objectif, on a travaillé avec les associations, avec les conseils d'administration des crèches pour savoir ben voilà, quel type d'alimentation on mettait en place. Le choix s'est porté vers bien sûr une alimentation de qualité et de faire aussi bien en tout cas que les parents de ce qu'ils pouvaient préparer pour leurs enfants. Et donc c'est un travail qui a depuis 2018 a été mis en place, qu'on a fait ensemble. Ce cahier des charges, on l'a créé ensemble. Bien sûr, il y aurait eu la possibilité de faire appel à des structures de la vallée du Rhône qui produisent des repas en immense quantité et puis se faire fournir directement. La solution était toute trouvée. Or non, dans le DIWA, il y a vraiment eu cet élan d'aller vers une alimentation qui soit de qualité, mais aussi locale, avec une production locale. Et étant donné qu'il n'y avait pas de solution dans le DIWA, il a fallu donc la créer. On est allé, alors on était dans la phase de restructuration du pôle enfance à Die, portée par l'association des 4 jeudis, la crèche de Die. Donc on a intégré dans le plan de construction du futur bâtiment une cuisine qui puisse préparer sur place, confectionner les repas sur place. Il s'avère que dans l'équipe des 4 jeudis, il y avait aussi une salariée qui avait un CAP cuisine, donc qui a pu du coup, opérer tout de suite et confectionner les repas sur place pour les enfants. Et pour les crèches de Luc et Châtillon, on s'est rapproché de l'ESAT sur la commune de Recoubeau, qui confectionnait déjà des repas pour l'école. On leur a proposé de travailler donc avec nous, avec les associations gestionnaires de crèches, Luc et Châtillon, pour confectionner ces repas. Donc ça a été un gros travail et l'ESAT a joué le jeu s'est formé à changer ses pratiques, à créer une cuisine. Et aujourd'hui, donc les structures de Châtillon et de Recoubeau sont donc livrées par le biais aussi de la commune de Recoubeau avec un résident qui accompagne la livraison et donc la production est faite sur Recoubeau avec aujourd'hui une alimentation qui est essentiellement locale. On a 33% de producteurs locaux une alimentation qui est à 88% bio. Donc on dépasse les chiffres demandés par la loi Egalim. On a essentiellement voilà des producteurs, que ce soit les lentilles, les courges, les yaourts, qui sont du DIWA. Donc voilà une alimentation aujourd'hui qui a en plus voilà les familles en sont très contentes. Il y a un lien de proximité avec les VAT. Voilà c'est très apprécié. Et c'est vrai que la MSA, ce projet est entré donc dans un appel à projet, et la MSA a répondu favorablement et nous a soutenus financièrement sur ce projet, donc qui permet voilà et outre le fait d'apporter une alimentation de qualité pour les enfants, favorise aussi l'éducation à l'alimentation puisque notamment à Die par exemple, les enfants ils vont même sur le marché rencontrer les producteurs, choisir les courges et les butternuts qui vont servir à la préparation, du début jusqu'à ce qu'ils le goûtent. Il y a tout cet accompagnement et cet apprentissage aussi d'éducation à l'alimentation qui est fait. Et ça rentre aussi dans le cadre des objectifs du projet alimentaire territorial sur le DIWA.
Madame Blanchier, comment s'opère justement cette sélection des projets qui sont proposés dans votre appel? Est-ce qu'il y a en ligne de compte justement l'aspect local de la production, ne serait-ce que pour l'alimentation, hein, pour la petite enfance et notamment dans les crèches?
Alors, tous les projets sont quand même en lien avec les autres partenaires et ce qui se passe sur le territoire. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, on avait donc une première fenêtre d'ouverture d'appel à projet qui s'est clôturée le 2 février. Pour cet appel à projet, à ce jour, en Drôme, nous comptabilisons 19 structures qui ont déposé un appel à projet. Alors, c'est assez vaste et varié dans les demandes. Comme l'a dit Madame Joubert, voilà, ça peut concerner des fournitures de repas, ça peut être simplement des actions, des animations sur un territoire. On étudie cela en comité de sélection et ça passe ensuite au sein de notre commission d'action sanitaire et sociale. Et puis la tutelle valide au bout de 2 mois. Alors, en fait, les critères en lien avec les territoires identifiés font qu'effectivement, il faut qu'il y ait soit de l'innovation ou du développement de services, de l'amélioration de services qui, voilà, peuvent s'inscrire sur de l'alimentation ou de l'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les structures déposent via une adresse boîte aux lettres MSA un dossier de candidature. Celui-ci est étudié donc sont effectivement des critères qui maintiennent la ruralité des familles agricoles. Si le public concerné est bien identifié, il ne doit pas être généraliste, même si c'est sur un territoire donné, ça reste en lien avec soit la jeunesse, l'enfance, petite enfance. Il y a aussi une notion de parentalité. Cet appel à projet peut venir également compléter les appels à projet de la CAF qui concerne tout ce qui est en lien avec la parentalité dans le cadre du REAP. Après, nous étudions la pertinence, la pérennisation quand même des projets ou si c'est du ponctuel. Et après, on applique des quotas pour savoir si c'est voilà, viable et voilà, au préalable, on essaye en tout cas d'avoir des échanges avec les structures pour bien approfondir leurs demandes et bien cadrer le budget. On a quand même un montant minimum et maximum. Donc, il y a quand même 2 spécificités puisque les établissements, les EPCI ne peuvent prétendre au volet pilotage et opérationnel. Or, les structures associatives ne peuvent pas avoir de pilotage, donc c'est-à-dire un soutien financier pour la mise en œuvre des actions, des orientations Grandir en milieu rural.
Madame Joubert, vous êtes aussi détachée auprès de la petite enfance, mais il y a également, on peut parler aussi des loisirs et des vacances et de la parentalité autour de l'enfance et des petites enfances. Et donc, est-ce que vous avez cet aspect-là aussi comme témoignage ou comme expérience avec ces financements de grandir en milieu rural?
Oui, la MSA nous a aussi accompagnés sur l'ouverture de la LSH de Lucandiwa, un accueil de loisirs pour les petites vacances, les grandes vacances, qui s'est développé en partenariat avec la commune de Lucandiwa. Donc là, c'est effectivement, oui, la MSA est venue soutenir ce développement du coup pour l'accueil des enfants sur Lucandiwa, également sur l'Us-la-Croix-Haute, où on a mis en place un accueil les mercredis. Également sur la LSH de Die, on a augmenté la capacité d'accueil et la MSA a répondu aussi favorablement pour soutenir ce développement.
Et donc, il y a la mobilité aussi qui est à prendre en compte. Ça permet quoi précisément au niveau de la MSA? Qu'est-ce qui est encouragé à ce niveau-là?
Bien, dans la thématique mobilité, ça concerne le développement donc, d'actions en direction des familles qui peuvent s'inscrire comme développer l'utilisation du vélo, par exemple. Ça peut être des animations un peu plus itinérantes pour aller vers les publics qui ne peuvent pas se déplacer en raison des territoires et des espaces géographiques, voilà, pour réduire les distances et permettre aux personnes d'accéder à des services auxquels ils n'accèdent pas aujourd'hui. Aller vers les familles, permettre aux gens de découvrir aussi ce qui se passe sur leur territoire. On a financé sur une autre commune, par exemple, une navette qui a permis à une structure d'aller recueillir les enfants sur le passage pour les amener au centre de loisirs, par exemple. Autre demande concernait, voilà, des ateliers réparation pour des vélos, des choses comme ça.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Monsieur Mourier, vous êtes là aussi pour nous parler de l'aspect numérique de ce dispositif de grandir en milieu rural. Vous-même avez déjà eu affaire avec ce dispositif proposé par la MSA. Quelles sont vos expériences autour de cet aspect?
Oui, alors je vais vous parler de ce projet qui est vraiment intéressant. Je vais peut-être juste rappeler en deux mots ma mission comme conseiller numérique France Service employé par la communauté de communes du Diois. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis employé par la communauté de communes pour aider les habitants, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, à gagner en autonomie avec les outils numériques, donc informatique, comme on disait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, utiliser son appareil, que ce soit un ordinateur, un smartphone, une tablette, pour le travail, pour les loisirs, pour quelles que soient les situations. Et dans ma fiche de poste, il y a aussi un volet culture générale et puis éducation à l'esprit critique sur les sujets du numérique. Alors c'est vrai qu'au quotidien, les gens viennent plutôt me solliciter pour des questions de manipulation, de les aider à savoir faire une démarche en ligne ou gérer leurs documents sur leurs appareils. Mais au cours des discussions, il peut toujours y avoir une dimension de quel recul on prend par rapport à ces outils, comment on se situe volontairement dans leur utilisation ou parfois de façon contrainte et obligée. Et mon public, c'est alors, je disais tout public, c'est principalement des adultes, pour plus de la moitié des retraités. Mais il y a aussi des personnes de tous les âges et il y a aussi un enjeu justement pour moi et avec la communauté de communes de pouvoir toucher tout le monde. Et c'est là que je trouve que le soutien qui a été donné à la Comcom sur la dimension numérique par la MSA dans le volet grandir en milieu rural me semble vraiment intéressant. Alors moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants il y a 2 ans, peu après ma prise de poste, à la Motte-Charlancon, en école primaire, où j'avais organisé ce qu'on appelle la fresque du numérique, qui est un dérivé de la fresque du climat autour de la question environnementale du numérique. Et je l'avais fait avec les enfants de l'école primaire, dans les CM2, les plus grands. J'avais bien apprécié ce travail de travailler ponctuellement avec un autre public. Et c'est là que, quand ma collègue coordinatrice enfance-jeunesse à la communauté de communes m'a parlé de l'appel à projet, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de trouver un moyen pour pouvoir s'adresser aussi aux plus jeunes. Et par le biais des plus jeunes scolarisés, eh bien en fait aussi à leurs parents, à leurs proches. Voilà. Alors très concrètement, là je vais prendre un exemple des projets qui sont soutenus par la MSA avec les scolaires. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc par exemple demain, je vais passer l'après-midi avec les enfants de l'école primaire de Saint-Julien-en-Quint et on va faire ce petit atelier qui s'appelle Qu'est-ce qu'un robot ? Menons enquête. C'est un atelier que j'ai déjà animé avec ma collègue Marjolaine Roland à Saint-Nazaire-le-Désert, et puis à la Motte-Charlancon, à Valdrome, et que je ferai le mois prochain à l'école Notre-Dame à Die, et puis enfin à Luz-la-Croix-Haute. Donc là, c'est avec les enfants. Donc ces robots ont été financés grâce à ce programme MSA. C'est des robots pédagogiques qui s'appellent Timio. Il y a différents robots qui peuvent être utilisés dans les écoles, les collèges, etc. Ceux-ci ont l'avantage de pouvoir être utilisés à des âges très différents. Donc là, je vous prends l'exemple des petits, hein, parce que demain, on aura des 5-6 ans jusqu'aux 10-11 ans. Mais après, ils peuvent être utilisés au collège avec des fonctionnalités plus élaborée, et même au lycée, et cette fois en utilisant des fonctions liées à l'intelligence artificielle. Donc très concrètement, si vous voulez, parmi les apprentissages scolaires, même en primaire, il y a la dimension initiation à la programmation, par exemple. Et parfois, certaines écoles ont déjà un ou deux petits robots qui sont mis à disposition. Tous les enseignants ne sont pas forcément à l'aise avec cette thématique ou compétents là-dessus, donc ils sont intéressés d'avoir un petit coup de pouce. Et donc, pour moi, grâce à ces petits robots que là, avec les enfants plus petits, on utilise avec des programmes préprogrammés, internes, hein, on ne va pas faire nous-mêmes de la programmation, ou plutôt on va faire des rudiments de programmation. L'enjeu pour moi, ce n'est pas tant de préparer les enfants, ce qui serait plutôt le projet de l'école, à avoir des compétences techniques sur la programmation, mais ça peut être un bénéfice quand même. Hein. Pour moi, l'enjeu, c'est plus de faire un lien avec les enfants, peut-être avec les familles, et surtout de les aider à manipuler des outils de type robot, hein, là très concret, puisque c'est des petites machines qui roulent, qui se déplacent, qui font du bruit. Et pour moi, l'enjeu, c'est d'arriver à, quel que soit le métier, l'environnement professionnel dans lequel évoluera plus tard l'enfant, qui ne sera pas forcément du tout ni technique ni informatique, de les aider à prendre du recul par rapport à tous ces outils qui nous entourent.
Par rapport à cette expérience, cela a permis donc d'initier certaines activités au niveau de la CCD vis-à-vis de ces dispositifs et à l'adresse des enfants. Bon.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là où j'étais plutôt positionné assez spontanément sur des publics, on va dire, majeurs, hein, parce qu'on a aussi des jeunes, hein, qui viennent nous voir dans nos permanences, nos ateliers, à l'espace France Service ou à l'espace social ou dans toutes les permanences du territoire. Mais c'est vrai que là, c'était un moyen intéressant de pouvoir faire une proposition pour les scolaires, hein, parce que je vais intervenir. Donc là, j'ai pris l'exemple des petits, hein, en primaire, mais j'interviendrai aussi en collège et puis avec des jeunes adultes. Faire des propositions autour du numérique. Alors pour les enfants, c'est, comme j'ai expliqué, c'est plus ce petit atelier autour des robots, mais c'est aussi pouvoir faire l'expérience d'un certain rapport avec ces outils finalement. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se sentent compétents, autorisés et prêts à questionner en fait les usages aussi qui nous entourent. Alors plus ils vont être grands, plus on va aller loin dans les questionnements. Et puis après, c'est aussi un moyen en fait d'être connu et de faire passer aussi le message que ces outils numériques qui nous entourent souvent massivement, quel que soit notre âge, on peut avoir parfois besoin d'être un peu aiguillé pour les utiliser. Hein. Moi-même, même si c'est mon métier d'y être tous les jours, je suis régulièrement un peu ennuyé pour arriver à faire une chose ou une autre. Hein. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne sur le territoire qui soit laissé de côté par rapport à tous ces outils. Et c'est pour ça que le soutien du programme de la MSA est vraiment pertinent là-dessus. Surtout que là, dans l'exemple que je fais, ça se fait par un biais ludique. Et c'est, me semble, la meilleure manière de le faire avec les enfants.
Valérie Joubert, vous, en tant que maire de Poyol, qu'est-ce que vous avez pu percevoir sur ces actions de la MSA, conjointement avec la communauté de communes, sur votre municipalité ?
Écoutez, moi, j'ai de plus en plus d'enfants aussi sur ma commune, donc qui fréquentent les crèches. Les enfants vont à la crèche de Luc Condillois. C'est vrai qu'ils bénéficient, on en est fiers, hein, d'une alimentation à la crèche de Luc, qui est locale, où les enfants sont presque en lien direct avec les producteurs, pour la plupart. C'est intéressant pour les familles aussi, quand ils vont faire le marché et qu'ils reconnaissent, tiens, c'est le yaourt qu'on a mangé à la crèche, et qu'ils ont 3 ans, et qu'ils peuvent échanger ça avec leurs parents et qu'ils les retrouvent à la maison. Ça crée du lien. Ça permet aussi aux familles et aux parents d'en discuter. Et que, voilà, ils aient cette conscience-là de l'alimentation. Elle vient elle vient de quelque part. On a des producteurs, on a des agriculteurs autour de nous et c'est une prise de conscience qui est nécessaire, je trouve, dans les familles et pour les enfants dès le plus jeune âge. Donc il y a ça, il y a des retombées du coup effectivement en tant que mère, bah, je peux en parler avec les familles qui en sont assez contentes. Après, sur France Service et tout l'accompagnement des habitants dans la transition numérique, on a nous aussi des personnes qui sont assez isolées, qui sont pas du tout familiarisées avec les outils numériques. Et c'est vrai que la possibilité d'avoir France Service sur le territoire et des conseillers comme Emmanuel Mourier ou Delphine, hein, c'est ça, il me semble,
C'est ça, Delphine
la collègue.
Roudurski, hein, voilà, employée
Voilà.
par la commune de Dijon.
Voilà, ça permet effectivement d'accompagner tous les habitants du territoire dans la transition numérique et de les soutenir dans leurs usages du quotidien et de favoriser, c'est vrai aussi, l'inclusion numérique aussi dans les écoles par le biais des actions telles que l'a expliqué Emmanuel. Donc nous, ouais, bien sûr, il y a des retombées tout de suite, même dans nos petites communes qui sont assez isolées. Et France Service également va pouvoir se déplacer. Il me semble, hein, Emmanuel, ça va être bientôt le cas dans les communes, notamment avec des lieux d'accueil comme à Luc-en-Diois pour pas être obligé de descendre sur Die. Donc plus de proximité, plus d'accompagnement
Alors, juste pour préciser, pardon, en effet, il y a l'espace France Service de Die qui reste, qui continue son activité, mais il y a un deuxième France Service partagé entre Luc-en-Diois et Châtillon-en-Diois
Voilà,
qui
c'est
va
ça.
ouvrir à partir de début mars. Alors, ça sera la même équipe qui travaillera sur Die et sur les locaux du Diois, mais il y aura vraiment maintenant enfin, un service, je ne sais pas les horaires par cœur, mais ça, on aura l'occasion de vous le redire, mais qui sera vraiment beaucoup plus proche des habitants du Haut-Diois.
Il y a eu des appels à projets qui ont été déposés jusqu'à la date du 2 février. Est-ce que vous, en tant que structure, vous êtes portée candidate pour cette nouvelle année, Monsieur Mourier?
Moi, je suis médiateur numérique, donc ce n'est pas moi qui pilote les appels à projets au niveau de la Comcom. Je ne me suis pas repositionné sur l'année 2024 parce que j'ai encore largement à faire avec tous les projets que j'ai enfin, autour de l'appel à projets de 2023. Donc, ils vont m'occuper une bonne partie de l'année. Et puis, mais il est très possible, si ce programme est à renouveler, que dans mon petit créneau numérique, hein, qui est très peu par rapport à l'ensemble des enjeux de ce programme, hein, ben, c'est possible. Oui, qu'on envisage plus tard de candidater à nouveau, mais peut-être seulement l'année suivante.
Madame Joubert, vous-même, donc en tant que vice-présidente en charge de la petite enfance et de l'enfance, êtes aussi habilitée, peut-être aidée à cette constitution des projets ou des candidatures pour ce dispositif de la MSA?
Alors, il y en a beaucoup, hein, des appels à projets et des candidatures. C'est vrai que comme Emmanuel, hein, moi je les maîtrise pas toutes, mais en tout cas sur la compétence petite enfance, je sais qu'on a sollicité la MSA aussi pour l'extension de la crèche de Châtillon. Ça fait partie des projets, hein, à Châtillon, donc la crèche portée par l'association GAP. On a également, je crois, déposé un projet pour. Alors, ils nous avaient déjà accompagnés dans le cadre de la rénovation du pôle enfance avec l'augmentation des places supplémentaires aux 4 jeudis à 10. Et puis, on est en train de réfléchir avec les structures du DIWA sur une évolution du mode de gestion. Et la MSA nous accompagne aussi dans la phase d'études. Là, on va travailler avec les structures pour voir, ben voilà, quelle gouvernance, quel mode de gestion demain pour encore plus consolider le travail de réseau et pour permettre toujours au final d'offrir un mode de garde qui soit bien maillé sur tout le territoire en quantité et en qualité aussi pour accueillir tous les enfants. Après, là, d'autres projets qui me viennent en tête. Je sais que par exemple, la MSA nous soutient aussi quand on organise la fête des familles. Cette année, il y avait la fête des familles à Luc-en-Diois, qui rassemble les familles avec des enfants d'entre 0 et 3 ans ou un peu plus. Et c'est des événements voilà, ponctuels qui fédèrent, qui créent du lien, autour des tout-petits avec plein d'activités en lien, que ce soit de l'alimentation, de l'animation, de l'éveil, de la lecture, des ateliers qui sont organisés. Et voilà, la MSA peut venir sur des petits événements comme cela aussi nous accompagner.
Voilà, en gros, ce dispositif Grandir en milieu rural répond aussi aux besoins des 0 à 25 ans avec ces thèmes donc qu'on a énumérés. Sachant que le dispositif, ce premier de l'année 2024, vient de se terminer pour ce qui s'agit des dépôts de dossiers, avec ensuite une commission qui aura lieu le 15 février pour en connaître les résultats. On le saura quand, ça, à peu près?
À peu près février, mars, courant du mois d'avril.
Et puis le deuxième, donc, qui sera à venir pour le 15 mai, avec ce dépôt limite le 15 mai. Pourquoi ces deux tranches proposées dans les dates? Ça permet de mieux canaliser les propositions?
Oui, c'est une façon quand même de gérer les dossiers, étant donné qu'on ne sait jamais vraiment combien de dossiers on va avoir. Là, ne serait-ce que pour la première vague sur l'ensemble de nos trois départements, Ardèche, Drôme, Loire, on a déjà 50 dossiers. Une enveloppe budgétaire est ouverte d'environ 500 000 euros pour l'ensemble de nos trois départements. Et concrètement, là, si on alloue les montants demandés, on est déjà à 340 000 euros. Donc, sachant qu'il y a une deuxième vague d'études possible, voilà, donc c'est aussi pour limiter et ne pas tout avoir à gérer dans le temps. Au fil de l'eau, ça ne serait pas gérable au niveau de l'enveloppe, puisque forcément, à un moment donné, elle serait épuisée et on ne pourrait pas répondre favorablement à tous les projets. Et chaque année, pour l'instant, ce dispositif est renouvelé, donc c'est déjà la troisième année. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Je vais vous remercier en tout cas Valérie Joubert, Emmanuel Mourier et Anne Blanchier.
Ben, merci à vous.
Pour votre disponibilité de cette nouvelle année du dispositif Grandir en milieu rural.
Et ben, je vous remercie.
Bonne journée
également.
Au revoir.
Merci.